Bonjour. Nous avons vu la fois passée, en bref évidemment, parce qu'on pourrait parler des heures, l'essentiel de la vie juive. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vie juive tourne tout entière autour d'un centre qui est la réalité de la vie. Cette vie physique, cette vie humaine que nous avons, qui est à la fois physique et spirituelle, est présence de Dieu. Si bien que chaque personne est une Shekinah. Shekinah, Shakan veut dire habiter, c'est-à-dire une habitation de Dieu. D'où l'importance que chaque personne a, ou doit avoir en tout cas, dans la perception juive. Bien sûr qu'il y a dans l'histoire d'Israël, autant que dans l'histoire de toutes les nations du monde, il y a des quantités de meurtres et d'assassinats. Mais c'est parce que les hommes sont ce qu'ils sont, que les hommes sont violents. Mais la religion juive, le judaïsme, tend évidemment vers la paix. Puisque, d'ailleurs, le terme avec lequel on se salue, c'est shalom. Mais shalom, la paix, ne signifie pas seulement l'absence de guerre ou l'absence de violence. La paix dit une intégralité de l'homme. L'homme est tout entier présence de Dieu. Mais de là à le vivre concrètement, il y a une marge et que l'on ne franchit pas toujours. Donc shalom ou salam en arabe signifie la paix, l'intégrité. D'ailleurs ce mot, nous l'utilisons encore aujourd'hui, faire le grand chelem, c'est faire l'intégralité de tous les plis. Shlem, shalom, c'est l'ensemble. D'ailleurs, hein, vous savez bien que le jeu d'échecs vient de l'Orient, il vient des Arabes, justement. Et quand on dit, hein, on a traduit échec et mat, échec, ça veut dire le sheikh. C'est le jeu du sheikh, le jeu du grand patron. Hein. Et quand on dit échec et mat, ça vient de shake mat. Le shake est mort. Mat, ça veut dire est mort. Le mat, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. En français, on ne sait plus. De même que faire le grand chelem, on ne sait plus ce que ça veut dire. Enfin, si, on sait bien, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et donc, maintenant, nous allons essayer de voir en gros, de nouveau, en résumé, l'année juive dans ses festivités, dans la fête. Il y a 12 mois de l'année, le calendrier juif est un peu différent de notre calendrier parce que les mois ont alternativement 29 et 30 jours. Donc il n'y a pas en tout 365 jours. Et donc c'est une année qui est à la fois solaire, puisqu'on essaye de récupérer les 365 jours au moins tous les 2 ou 3 ans, mais elle est surtout lunaire. Donc elle est lunisolaire, à la fois la lune, c'est-à-dire on se fixe des mois de 29 à 30 jours, alternativement, parce que ce n'est pas tout à fait 29. Voilà. Et on arrive au bout avec un reste. Et donc, tous les deux ou trois ans, on doit ajouter un mois. Puisqu'il y a finalement une dizaine de jours, pas tout à fait, 7-8 jours, trop peu par mois. Et donc, le calendrier juif, nous sommes à l'année 5774. Enfin, nous allons arriver le mois prochain. 5774, c'est-à-dire depuis la fondation du monde. Évidemment, c'est une année tout à fait un chiffre tout à fait conventionnel, mais voilà, on compte comme cela dans le judaïsme. Donc nous sommes pour le moment, dans le mois de Kislev, nous allons voir tout de suite, le mois de Kislev, nous sommes dans le mois de Kislev et de l'année 5774. Voilà. Donc ça c'est à propos du calendrier juif, vous pouvez retrouver toutes ces données de façon encore plus précise à partir de la page 54 dans le syllabus, et vous aurez à noter chaque fois un certain nombre de lectures que vous pouvez faire et que vous trouvez donc dans le document, le document 18 à la page 38 et suivante. Donc, nous avons 12 mois de l'année qui sont, au fond, repris d'après les 12 tribus d'Israël. Ce chiffre 12 est important parce que c'est 3 fois 4. 3, c'est le chiffre de l'homme, puisqu'il est relation à Dieu, relation à soi-même, les relations à autrui et au monde, 3, donc c'est le chiffre de l'homme. C'est intéressant parce que nous allons reprendre ce 3 pour exprimer la Trinité, mais c'est dans un sens bien sûr un peu différent. Et 4 signifie les 4 points cardinaux, c'est-à-dire le monde. Donc c'est l'homme dans le monde, 3 fois 4, 12. 12, donc c'est le chiffre de la communauté humaine, l'homme dans son monde, dans son environnement. Tandis que 3 plus 4, 7, on dit souvent que c'est un chiffre parfait, c'est pas le 7 qui est un chiffre parfait, c'est le chiffre de la réalité temporelle, ce que nous appelons l'histoire. L'histoire, c'est 3 plus 4, c'est-à-dire l'homme additionné à son monde, additionné, pas multiplié par. Et donc, oui, ça c'est une manière mnémotechnique pour se souvenir d'un certain nombre de réalités. Et donc, 12, c'est donc le chiffre de la communauté humaine. Communauté humaine, homme dans le monde, homme dans son environnement. Alors pour bien saisir ce qui est l'essentiel de la fête juive, il faut découvrir une chose importante, c'est que ce que nous appelons le réel, c'est en fait l'apparence du réel. Le réel, nous ne l'atteignons jamais. Le réel, c'est la réalité, ce que nous appelons la réalité en soi. C'est-à-dire, c'est le mystère, la réalité vraiment solide. C'est ce mystère que tout homme, que toute personne humaine vit. C'est son identité propre, singulière. Et donc, qu'est-ce que c'est que la réalité de la vie ? Ce que nous vivons tous, eh bien, c'est la manière personnelle et unique dont nous vivons dans le décours du temps et de l'espace. C'est notre propre mystère. Et alors, lorsque nous fêtons une réalité, ce n'est pas seulement une commémoration, comme nous le disons. C'est la réalité elle-même que nous vivons, à travers un certain nombre de rites et un certain nombre de récits qui vont donner une sorte de chair à ce rite. Donc toujours cette trilogie qui est présente au fond dans toutes les religions, un mystère qui est vraiment la réalité, le symbole, c'est le symbole, c'est la réalité profonde, c'est le symbole que nous vivons tous. Nous vivons notre propre symbole, c'est-à-dire notre identité. Mais nous devons raconter ce que nous faisons, ce que nous avons fait, notre passé, et notre présent et éventuellement notre futur, nous devons le raconter, nous le racontons à partir d'un certain nombre de choses, de faits, d'événements que nous vivons. Ça, c'est notre mythologie. Nous avons tous une mythologie, c'est-à-dire une manière dont nous prenons les choses en main et dont nous nous les représentons. Chacun de nous, hein, porte sa propre mythologie que nous traduisons aujourd'hui par un curriculum vitae. Bon. Et cela se dit dans des rites. Nous avons tous nos propres rites, c'est-à-dire notre manière propre d'être, d'exister, d'avoir avec les autres des relations. Et donc la fête, c'est le zikaron, le terme zeker, la racine zeker, zakar, en hébreu signifie le souvenir, ou bien l'homme, zakar, c'est le masculin, parce que c'est lui qui garde le souvenir de la vie qu'il a reçue, dans le membre qui donne la vie. Nous avons vu la fois passée d'où l'importance de la circoncision. Et donc, dans notre année juive, nous avons un certain nombre de réalités qui se passent. C'est-à-dire que nous, j'ai donné le terme tout à l'heure, nous commémorons l'histoire d'Israël, mais pas tout à fait l'histoire au sens où nous le disons, c'est-à-dire la succession des événements, mais nous commémorons le mystère de chaque mois, chaque temps important de l'année. Nous commémorons ce mystère. Et cette commémoration se fait à partir de la naissance de ce fête. Pratiquement, toutes ces fêtes sont nées de réalité saisonnière, c'est-à-dire de la manière dont la nature se vivait en Canaan. Les Hébreux sont des tribus, un assemblage de tribus qui vient, on ne sait pas très bien d'où, ah si, Abraham vient du Golfe, le Golfe, c'est-à-dire l'embouchure en Mésopotamie, l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate. Donc il vient de là. Il vient de l'étranger et il est nomade. Ivri, le terme hébreu, veut dire nomade, le passant, le passeur. Et donc on va célébrer, c'est-à-dire vivre la réalité qui est expliqué dans la mythologie biblique, c'est-à-dire dans les récits de la Bible. Et, chose curieuse, aujourd'hui, il y a deux fêtes du Nouvel An. À gauche, je vous ai mis les mois tels que la religion juive, c'est le langage religieux, le premier mois de l'année religieux, c'est le mois de Nissan. Nissan, qui est le temps de la Pâque. Le premier jour de Nissan, c'est le temps de la Pâque. Donc on commence, sur le plan religieux, à partir de la Pâque. C'est-à-dire à partir de la fondation du peuple d'Israël. La fondation du peuple d'Israël, c'est tout le temps. C'est tous les jours de l'année, puisque c'est l'élection que Dieu a faite et que Dieu continue de faire chaque jour du peuple d'Israël. Donc, c'est notre propre élection. Chacun est né le jour de Nissan, c'est-à-dire au moment où il a reçu avec la vie, au moment où il est venu au monde, c'est-à-dire où il a reçu avec la vie la Torah. Chacun reçoit sa Torah, c'est-à-dire cette présence de Dieu qui est l'indicateur de la réalité qu'il doit vivre. Nous dirions aujourd'hui simplement le mode d'emploi de l'humanité. Donc là, si nous partons sur le plan religieux, nous commençons à la fête de la Pâque, du passage, du passage de quoi ? Ben, de la situation d'esclavage d'Égypte à la situation de juif totalement, c'est-à-dire choisi par Dieu. C'est pourquoi le juif distingue toujours le peuple. Le peuple, c'est celui que Dieu choisit, de la nation, ce sont les hommes qui se choisissent les uns les autres. Alors, ce sont toutes les distinctions que vous trouvez constamment dans la Bible, mais que nous ne réalisons pas toujours. Tandis que le septième mois, le mois de Tishri, c'est le premier jour de l'année civile. Et donc, si vous prenez l'année civile commence à l'automne, tandis que l'année religieuse commence au printemps. Toujours des choses compliquées. Heureusement que les choses sont simples pour qu'on puisse les compliquer. Hein. Alors, deux commencements d'année, d'après qu'on se situe dans le civil ou dans le religieux. Alors, je vous donne les noms des différents mois, qui sont des noms tout à fait antiques, qui viennent de l'Assyrie, c'est sémite bien sûr, des Assyriens. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Tishri, donc ça, premier mois de l'année, et ce premier mois d'année commence à l'automne, donc entre le 15 septembre et le 15 octobre, généralement. Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat et Adar. Et de temps en temps, donc tous les deux ou trois ans, oui, on ajoute un 13e mois, qui est le Ve-Adar et Adar. Voilà. Et donc il faut chaque fois se river au calendrier pour voir où on en est exactement. Alors, nous sommes, nous, pour le moment, au mois de Kislev. Tishri, c'était en septembre. Donc, Tishri, Cheshvan, Kislev. Alors, là, ça commence par les trois fêtes austères. Les trois fêtes austères, ce sont les fêtes d'automne. Elles sont austères parce que vous avez là le Rosh Hashanah. C'est-à-dire la tête de l'année, Rosh Hashanah, qui est le premier de l'an juif, et qui est suivi, ce Rosh Hashanah, qui est suivi de ce qu'on appelle le Yom Kippour, c'est-à-dire le jour de l'expiation, ou Yom HaKippourim, des expiations, que nous pourrions traduire le grand pardon. Le grand pardon qui est demandé. Et puis vous avez la fête de Sukkot, ou la fête des tentes. Souka, c'est une tente. Fête de Sukkot, ce sont la fête des tentes. Mais ce n'est pas tout à fait des tentes. C'est une habitation fragile, donc des cabanes. Et d'ailleurs, nous allons y venir tout de suite. Donc ce sont ça les fêtes du début de l'année civile. Et pour le moment, donc, nous sommes au mois de Kislev, et au mois de Kislev, le 25 du mois, mais nous venons de le passer, parce que nous sommes en train de le passer dans le judaïsme, et vous avez une fête qui s'appelle la Chanukah. Chanukah, la racine Chanach, qui veut dire initier quelque chose. La Chanukah, c'est la fête des Lumières, et c'est la dédicace, le mot Chanukah veut dire dédicace, la dédicace du Temple. Et hier, avec quelques familles judéo-chrétiennes, j'ai été célébrer la fête de la Chanukah, hein, dans laquelle nous nous situons, parce qu'elle dure 7-8 jours, nous allons voir tout de suite pourquoi. Donc voilà donc les fêtes que vous trouvez, les fêtes principales que vous trouvez donc dans les fêtes d'automne. Tandis que, si vous prenez le calendrier religieux, on commence par Nissan, et là vous avez la Pâque, c'est-à-dire le passage de l'esclavage à la liberté, le passage de, que chacun a à faire tous les jours, le passage de ce qu'il était à ce qu'il est, à cette liberté intérieure qu'il doit sans cesse conquérir, avec le don, évidemment, la Pâque, le don de la Torah, le Matan Torah, Matan veut dire le don, don de la Torah. Et puis, on compte alors 50 jours après, 7 fois 7, 7 semaines, c'est-à-dire le maximum, la répétition 7 fois 7, hein, de la réalité d'une semaine, c'est-à-dire de la réalité historique. Et cette 7 fois 7, c'est Shavuot. Shavuot, mais semaine. Shavuot, c'est une semaine. Hein, Shavuot, des semaines. Donc 50 jours après, c'est la Pentecôte. 50 jours, Pentecostès. Hein, donc c'est notre fête de Pentecôte. Si justement je vous donne tout cela, c'est parce que nos fêtes viennent du judaïsme. Hein, pas tout à fait celle-là. Nous allons voir aussi pourquoi. Mais celle-ci viennent du judaïsme parce que justement ce sont les fêtes religieuses. Donc, Pâques, avec le don de la Torah, Shavuot, la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire du don de la Torah qui rassemble le peuple d'Israël, les 12 tribus, et qui rassemble le peuple de l'humanité entière. Car la vocation d'Israël, c'est de faire ce qu'on appelle le Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Shem, c'est le nom. Le nom, Hashem, c'est le nom de Dieu. Kiddush, c'est la sanctification. La vocation du juif, c'est la sanctification du nom. C'est-à-dire de proclamer et de vivre au maximum de la possibilité, de vivre le Dieu saint tout au long de l'année, le Shem, le Dieu, qui douche donc saint, la sanctification du nom. Donc témoignage de l'unicité de Dieu. C'est ça le rôle d'Israël pour vis-à-vis des nations. Pour revenir sur le sens de la fête, je prends simplement ceci, avec deux traductions différentes. Au chapitre 19e de l'Exode, verset 1, nous lisons « Le troisième mois après leur sortie d'Égypte, les Hébreux arrivèrent au Sinaï. » Mais entre les deux, le troisième mois après leur sortie d'Égypte, il y a ce mot simplement « Hayom », le jour. Et que la plupart de nos traductions modernes traduisent « ce jour-là ». Le troisième mois après la sortie d'Égypte, et vous trouverez dans vos traductions, vous trouverez « ce jour-là », les Hébreux arrivèrent au Sinaï, au désert du Sinaï. Donc il y a une expérience à faire, la traversée du désert. Mais si vous lisez comme un juif le lit, parce que Hayom, le jour, signifie aujourd'hui en hébreu. Alors vous lisez ceci, le troisième jour, après la sortie d'Égypte, les Hébreux, aujourd'hui, arrivèrent au Sinaï. Là, vous avez le sens de la fête. La fête, ce n'est pas ce qui s'est passé il y a autant d'années. La fête, c'est ce qui se joue, ce qui se passe, ce qui se célèbre maintenant. Le maintenant est la réalité importante, aujourd'hui, hayom. Et si vous lisez bien le Deutéronome, en faisant attention à cette expression, vous aurez tout le temps le mot « aujourd'hui ». Aujourd'hui. Et ce mot est tellement important que Saint Luc va le mettre aussi, ça c'est Saint Luc qui était païen d'origine, a découvert cela chez le juif, l'importance du présent, du moment présent. Moment présent qui est gros du passé, mais qui est plein de l'avenir. Parce que le présent est toujours une naissance nouvelle. Mais une naissance qui reprend évidemment l'identité de chacun, de chaque personne. Donc voilà un peu hein, la manière dont le juif va percevoir son histoire. Et donc ces célébrations, sa fête, vont marquer chaque fois l'actualisation. Ils vont prendre dans le passé ce qui est essentiel, c'est-à-dire le symbole, le mystère, et ils vont l'adapter au jour d'aujourd'hui, au moment présent. Donc ce n'est pas du tout un retour au passé. C'est regarder combien le passé est en train d'aller vers l'avenir. Et que l'essentiel, c'est évidemment l'avenir. Et donc le passé, dans un certain sens, est mort. Mais nous le vivons dans le présent, présentement, pour nous ouvrir à la nouveauté. Donc voilà un petit peu la signification profonde de la fête. Alors, je vous donne avec beaucoup de détails pour les différentes fêtes. Et il faut vous dire aussi qu'il y a un beau petit tableau à la page 56, un beau petit tableau qui met tout cela ensemble dans un cercle, le cercle de l'année liturgique juive. La difficulté de cela, c'est que, justement, le juif va prendre distance à partir de la manière cyclique dont les païens situaient le temps. Le temps est cyclique et donc c'est comme un éternel recommencement. Or, justement, là aussi, les juifs prennent toujours quelque chose de l'humain, ils se fondent dans l'humain, mais ils vont donner un sens un peu différent, et même très profondément différent. La plupart des fêtes juives, donc situées au printemps et en automne, du printemps à l'automne, c'est-à-dire le moment où la vie même physique de la nature reprend, et au moment où on fait la récolte, en automne, la récolte des fruits. Donc, ils vont se centrer non plus sur les saisons. Ça, c'était les Cananéens. Les Cananéens utilisaient le cycle des saisons. Et donc, ce cycle est récurrent. Or, justement, le Juif a voulu prendre distance à partir de là pour montrer, justement, sa spécificité. Et ils vont ajouter à ce relais des saisons, printemps, été, automne, hiver, qui ne sont pas évidemment avec les mêmes caractéristiques que dans nos pays plus tempérés, printemps, été, automne, hiver, mais qui reviennent chaque année. Eh bien, ils vont doter ces fêtes d'une mémoire historique. C'est-à-dire qu'ils vont toujours placer dans le temps cyclique la réalité qui fait leur identité de peuple de Dieu. Nous sommes le peuple qui doit faire le Kiddush Hashem, c'est-à-dire qui doit être témoin que Dieu est unique et que tout ce que nous vivons est unique et donc saint. Saint de la sainteté de Dieu. Soyez saints, parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Être saint, c'est être unique et recevoir cette unicité de Dieu comme nous recevons tous la vie. La vie est quelque chose de reçu. Et c'est le premier acte que va faire le juif, c'est recevoir d'être reçu. C'est ce qu'on appelle l'élection. Dieu choisit Israël, le peuple d'Israël, et justement ce que Israël a à montrer, que c'est Dieu qui nous fait exister, que nous n'existons ni par le hasard, ni par une succession des engendrements. Oui, nous vivons par une succession d'engendrements, mais au départ, c'est la vie de Dieu, c'est par elle que nous existons. Et c'est Dieu, quand il nous crée, qui nous choisit. Il y a une élection personnelle. Dieu choisit l'homme comme il est, d'après ce qu'il est. Et il respecte notre essence. C'est pourquoi, comme nous sommes des uniques, il n'y a pas moyen de se jalouser. Se jalouser est toujours un manque de réalisme, donc un péché. Le péché est toujours un manque de réalisme profond. On manque quelque chose d'important ou d'essentiel. C'est ça la notion de péché. Chata, en hébreu. Et donc, on va voir comment, au cours de l'année, le juif reçoit cette sanctification du Seigneur. Il reçoit sa propre identité. Et être sauvé, pour le juif, Yasha, la racine Yasha, qui vient dans Yeshua, Jésus, ou Yoshia, Osée, ou Josué, ou Isaïe, hein, c'est toujours la même racine. Yasha, c'est reconnaître ce que nous sommes de par Dieu. C'est ça être sauvé. C'est reconnaître, je dirais, presque son essence divine. Cette réalité, c'est reconnaître que nous sommes un mystère et que ce mystère renvoie à celui qui initie le mystère, c'est-à-dire qui donne la vie. Alors, ces différentes fêtes, nous allons les prendre brièvement pour vous donner le sens, parce que les détails, vous les trouverez dans le syllabus. Pâques, Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte, et Sukkot, ce sont les trois grandes fêtes de l'année. Donc, vous avez Pâques et Shavuot, au printemps, c'est-à-dire l'ouverture, l'éclatement de la vie, qui recommence, et Sukkot, c'est la récolte de la vigne, la récolte des figues, la récolte des grenades, la récolte de tous ces fruits de la terre et du travail de l'homme. Fruits de la terre, c'est-à-dire présence de Dieu, et travail de l'homme, c'est passer de la nature, ce qui est comme cela dans la nature, passer de la nature à la culture. La culture, c'est l'utilisation que l'homme fait de la nature. Si bien qu'aujourd'hui, nous voulons un peu gommer cette nature comme étant une réalité un peu abstraite, et c'est au contraire. La nature est la réalité profonde dont nous devons dégager le mystère. Nature est le passage à la culture, et la culture, et ça c'est très écologique, la culture n'est pas faire de la nature ce que nous voulons, ou en tirer notre propre utilité, mais c'est découvrir ce dont la nature est porteuse de vie. Je vais prendre un exemple très simple. Le pain et le vin, qui sont utilisés dans le judaïsme bien avant le christianisme, le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes, et nous reprenons la formule juive précisément à nos offertoires, fruit de la terre et du travail de l'homme. Et le pain et le vin, symboliquement, c'est-à-dire réellement, pour le juif, le pain et le vin, c'est quoi ? le pain est conçu, d'abord, ce sont des réalités naturelles, fruits de la terre, et du travail de l'homme, qui sont devenus artificiels. Le pain, vous ne le trouvez pas comme ça dans la nature, le travail de l'homme y est passé, le vin, vous ne le trouvez pas comme ça dans la nature, vous trouvez du raisin, et le raisin doit grandir. Fruits de la terre et du travail de l'homme. Le pain et le vin. Mais le pain est conçu comme une réalité féminine. Féminine, et donc le fait c'est la femme qui fait le pain, qui malaxe le pain, mais ça veut dire que la femme malaxe à l'intérieur d'elle-même, dans son sein, elle malaxe la vie, et elle en fait une réalité concrète. Et donc, le pain, la réalité du pain, symbolise tout de suite la femme. Et le vin est conçu comme une boisson masculine, c'est elle qui donne la force, la vigueur, la passion liée à la réalité du vin. Hein, le vin qui est, dont la Bible fait de Noé l'inventeur de la vigne. Pain et vin. Réalité masculine, réalité féminine. Fruit du travail de l'homme. Car pour que le pain arrive sur la table, il faut un an de travail de la nature. Depuis le moment où l'on sème jusqu'au moment où on a récolté, on fait de la farine et où le pain vient sur la table. Il faut un an du travail de l'homme pour que le vin grandisse, pour que d'abord les pampres reviennent, pour que les feuilles de vigne et les raisins viennent à maturité, pour qu'on soigne la vigne, pour qu'on en fasse un liquide, pour que ce liquide fermente au moins quelque peu, et pour qu'il soit servi à table. Fruit de la terre et du travail journalier de l'homme, mais en même temps annuel. Donc ça dit aussi le calendrier, la vie des hommes. Fruit de la terre et du travail de l'homme. Mais pour que le grain et le raisin deviennent comestibles, il faut aussi que les grains soient broyés les uns comme les autres. Donc ce travail est aussi pénible. Et donc cette pénibilité, cette peine de l'homme va se exprimer la souffrance et en même temps la responsabilité et l'engagement de l'homme dans sa nourriture pour faire la nourriture des hommes par les hommes. Mais tout ce travail de transformation de la nature en culture. Broyé pour devenir quoi ? Pour devenir ce qu'il est. C'est-à-dire signe de l'unité, de multiplicité. Multiplicité de grains, multiplicité de grains de raisin et multiplicité de grains d'épis. De céréales, fruits de la terre et du travail de l'homme, ça va résumer toute la réalité humaine qui est donnée à l'homme pour travailler et pour se donner, pour partager. Parce que tout le monde ne fait pas tout. Mais on s'unit ensemble, on se met ensemble pour faire une unité. Et ça, c'est la substance, c'est ce que Saint Thomas va appeler la substance du pain et du vin. Tandis que nous, si nous cherchons ce que signifie la substance du pain et du vin, nous regardons les ingrédients. Mais ça, c'est l'apparence pour le juif. La réalité profonde d'une chose, c'est... Il faut bien exprimer ça. C'est vraiment le symbole. La réalité profonde de la chose, fruit de la terre et du travail des hommes. Donc c'est toute cette réalité-là qui devient présente à nous. Dieu présent dans la nature qu'il nous donne à travailler pour que nous puissions la manger et la partager. Alors vous voyez que depuis la création du monde jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout est Eucharistie, tout est action de grâce, puisque nous reconnaissons ce travail dans la nature. D'ailleurs, dès le début de la Genèse, à peine l'homme est-il constitué, dans le premier chapitre de la Genèse, que Dieu met la table. Il dit, voilà, je vous donne tout cela à manger, toute la nature, mais cette nature que vous avez à travailler. Et c'est ça, justement, hein, travailler cette nature, c'est vraiment être au service de cette nature pour pouvoir partager les uns avec les autres. Ça, c'est la conception profonde. Et nous avons besoin de retourner à cette conception profonde, précisément parce que la réalité que nous vivons dans notre christianisme est grosse de tout cela. Mais nous avons souvent, parce que en passant du judaïsme au paganisme, nous avons, comme nous sommes des païens d'origine, nous ne sommes pas des juifs d'origine, comme nous sommes des païens d'origine, nous avons matérialisé tout cela. Et nous perdons précisément l'essentiel, c'est-à-dire la réalité profonde qui existe et qui est précisément notre chair. Donner notre chair à manger et notre sang à boire, c'est précisément ce que l'homme fait pour vivre. La maman donne d'abord son sang à son petit avant de lui donner la nourriture humaine, la nourriture artificielle. C'est bien cette réalité vitale que le juif a en visée. Et d'ailleurs, alors, la fête de Pessah devient la fête de la libération. Bien sûr, cette libération est partie de la libération de l'Égypte. Donc c'est la réalité historique qui est greffée sur la réalité saisonnière ou agraire. C'est le début de l'année où ce que l'on a semé commence à germer et devient épi ou devient vigne. Donc, fête du printemps, fête de la transhumance. En hiver, on mange l'herbe, les troupeaux mangent l'herbe qu'il y a, ou les maigres buissons qu'il y a là, dans le désert, ou à la bordure du désert. Et puis, quand on a fini de manger tout ça, il faut partir avec les troupeaux pour aller chercher l'eau et la nourriture des troupeaux, c'est-à-dire l'herbe, la nourriture végétale. Donc c'est une fête de la transhumance, une fête de passage. On passe d'un état sédentaire à un état nomade. Mais notre vie est cela. On passe de la réalité sédentaire, toute notre éducation se fait à un endroit déterminé, et puis à un certain moment, on prend son élan et on s'en va, on quitte. Et dans cette fête de la Pâque, je quitte mon esclavage, nous sommes tous en Égypte. Nous avons tous à vivre un esclavage. L'esclavage de la société contemporaine, ces lois sont aussi un esclavage, du moins tant que nous le prenons comme des lois, c'est-à-dire comme des réalités extérieures, alors que la loi, elle vient de l'intérieur. Alors, Pâques signifie justement ce passage que nous avons à faire constamment de nos esclavages. Nous avons tous des esclavages, des habitudes, des choses auxquelles nous nous sommes astreints, qui ne sont pas nécessairement l'essentiel, des attachements. Nous avons tous à lâcher beaucoup de choses pour découvrir quoi ? La réalité de Dieu. Ki mitzion de tzedora, ou dvar adonai, Mirushalayim, car de Sion sort la Torah et de Jérusalem la parole du Seigneur. Chapitre 2 d'Isaïe, verset 3, si je ne m'abuse. Et ça, c'est l'essentiel. Mitzion tetzé Torah. La Torah, c'est-à-dire la parole d'Israël pour le monde, la parole de Dieu, pardon, pour le monde, la Torah, elle vient d'Israël. Elle a été donnée comme la responsabilité d'Israël. Car le don est toujours une responsabilité. Qu'est-ce que j'en fais? Et donc je dois ajuster constamment mon agir à ce que je suis. Et la fête de Pâques, c'est ce renouvellement intérieur de l'homme pour le juif. Bien sûr, ils n'ont pas la réalité de la vie de Jésus comme nous le faisons. Mais il faut bien savoir que cette réalité de Jésus va se greffer précisément sur la manière dont le juif voit le déroulement de son année. Pessah. Et à la fête de Pessah, qu'est-ce que l'on chante dans les synagogues à partir du 1er siècle? Qu'est-ce qu'on le chante comme chant substantiel? Le cantique des cantiques. L'amour humain est la traduction dans l'humanité de l'amour de Dieu, de la dualité de l'homme et de la femme qui devient un dans l'enfant. Et il ne faut pas s'étonner que justement, à la fête de Pâques, on chante le cantique des cantiques dans les synagogues, et nous voyons que Saint Jean, fin du 1er siècle, va avoir des réminiscences du cantique des cantiques quand il prend la passion de Jésus. Et Marie-Madeleine qui vient au tombeau, c'est la bien-aimée, il veut rencontrer son bien-aimé qui a disparu. Hein? Vous voyez, notre christianisme, la substance de notre christianisme vient justement de ce qui était déjà vécu par Jésus et les disciples, hein, tout au début de la chrétienté. Alors, le lendemain de la Pâque, de Pessah, les Juifs autrefois, enfin, oui, les Juifs, oui, c'était les Hébreux, et puis les Juifs autrefois, offraient au Seigneur les prémices, le premier épi, ou les tout premiers épis qui sont nourris, hein, et puis dans lesquels il y a du grain, qui a déjà du grain formé, peut-être pas tout à fait mûr, mais du grain formé. Et ça, il fallait que cela. Et on offre la première gerbe, vous avez ça au chapitre 26e du Deutéronome, hein, l'offrande de la première gerbe. Quand tu seras arrivé dans ta terre, tu prendras dans une hotte les premières gerbes et tu iras les offrir au Seigneur. Je t'offre, Seigneur, le fruit de mon travail, fruit de la terre, c'est-à-dire du don de Dieu et du travail de l'homme. Et tu te réjouiras. Et donc, on va offrir le lendemain de Pâques la première gerbe. Hein? Donc, Pâques, c'est en avril généralement, c'est la première lune du printemps, c'est généralement en avril, fin mars et au mois d'avril. Et donc, vous voyez, il y a la réalité saisonnière, puis il y a la réalité du passage de l'esclavage en la liberté. Et pendant 49 jours, on va essayer de se remplir de cette présence qui nous nourrit constamment. Présence de l'épi, présence du pain, présence de Dieu qui nous libère et qui va nous donner la Torah qui est libératrice. La Torah, c'est la liberté, c'est la manière dont nous avons à nous situer par rapport à Dieu, les cinq premières paroles du décalogue, et vers le prochain, les cinq autres paroles qui visent le prochain. Pour Dieu, pour l'homme. Une main tendue vers Dieu, l'autre main tendue vers l'homme. Shavuot, Au bout de 7 semaines, nous avons la fête de la Pentecôte. La fête du don de la Torah, Matan Torah. Du don de la Torah. De la parole qui nous fait grandir. La parole est notre nourriture. Nous nourrissons les uns les autres pour entretenir cette vie qui vient de Dieu. Mais c'est la parole qui est notre nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, on va pendant ces 50 jours, à partir de Pâques, on va justement se remplir de cette présence et découvrir le sens de la nourriture. La nourriture qui est justement le don que Dieu fait à travers l'homme pour être partagé. Le partage du pain. Nous allons traduire ça, nous, par multiplication des pains, quand nous lisons l'Évangile. Or, c'est le partage du pain. Et si nous regardons un peu la mentalité dont le juif prend les choses, nous verrons qu'il y a beaucoup plus de sens que ce que nous y mettons dans notre conception matérialiste. Alors, on a offert les prémices, on vit évidemment du travail des champs, on vit sa vie là où on doit être, et on essaye de se remplir de cette présence divine reçue à Pâques, reçue dans la Torah, dans le don que Dieu nous fait de notre mode d'emploi. Comment puis-je me situer par rapport à Dieu au cours de notre existence ? Shavuot, c'est ce qui fait l'unité du peuple. La Pentecôte, c'est cette présence de la sagesse de Dieu dans le peuple qui l'unifie, pour manifester aux hommes que Dieu est unique, que Dieu est celui qui unifie, que Dieu est celui qui donne la paix. Ipse est pax nostra, dit saint Paul. Lui, il est notre paix. Il est notre paix. Il a repris cela à Michée. Et donc, ce que nous avons à transmettre, c'est ce qui nous est donné. Et c'est dans la mouvance de ces fêtes de Pâques que vont se situer deux fêtes qui sont tout à fait des fêtes extérieures, des fêtes de l'État d'Israël, le Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire le jour de la libération, de la liberté, Yom HaAtzmaut, la terre retrouvée. On a retrouvé sa terre, la terre qui nous a été donnée par Dieu. Et alors nous avons aussi, au mois d'août, au mois de Av, une fête de jeûne. Jeûne qui va signifier que l'homme est toujours en décalage par rapport à ce qui lui est donné. Il n'arrive jamais à vivre ce qui lui est donné. Cette fragilité humaine est constante dans la mentalité juive. Et justement, avancer vers le royaume pour le juif, pour que Dieu soit vraiment le roi de nos cœurs et le roi de l'humanité, mais ça prend encore du temps. Et nous restons très fragiles. Et justement, cette fragilité va être reprise au moment de la récolte. La récolte qui se fait donc en automne, de nouveau les fruits de la terre, mais les autres fruits. C'est bien sûr, parce que la récolte, généralement, on la fait, la récolte du blé, des céréales, on la fait généralement à Shavuot, ou juste au moment de la Pentecôte. L'été est beaucoup plus avancé que chez nous, évidemment. Et alors, nous allons avoir les fêtes d'automne, fêtes de la récolte, fêtes importantes, mais au moment de la récolte, ben, il fallait évidemment garder les champs, garder les vignes, pour qu'on ne vienne pas vous voler juste au moment où tout est mûr. Et c'est pourquoi on construisait des cabanes dans les vignes, où les gens venaient hein, pour passer la nuit, pour empêcher les voleurs de venir voler ou bien les figues qui entouraient la vigne, ou bien les raisins, hein, était la vigne elle-même. Et donc c'est de là que vient la fête des soukottes, c'est-à-dire les cabanes. Mais ces soukottes, vous rappelez, les tentes du désert, qui étaient aussi des cabanes fragiles, et qui ne duraient pas, tout à fait transitoires, c'était pendant le désert seulement, la traversée. Et donc la fête des cabanes va être justement hein, la fête de la fragilité humaine et de la présence de Dieu dans cette fragilité humaine. Et c'est pourquoi, de même que la fête de Pâques et la fête de Shavuot, de Pentecôte, se vivaient pendant 8 jours, la fête de Soukhot, des cabanes, va se vivre aussi pendant 8 jours. Et on va vivre sous la tente, ou bien dans une cabane pendant 8 jours. Et c'est comme ça que vous voyez en Israël, par exemple, les personnes hein, construisent, ou bien dans leur jardin, s'ils ont un petit lotpain de terre, ou bien sur leur toit, la maison, une petite cabane de feuillage. Il faut que ce soit du feuillage, parce que le feuillage fane. Et il faut que entre les branches de feuillage, qui symbolisent le travail de l'homme de nouveau, il faut qu'on voit le ciel. On voit d'où ça vient. C'est Dieu qui nous donne la vie. Ce n'est pas l'homme qui se la donne à lui-même. Il l'a construit, il l'entretient, mais ce n'est pas lui qui la donne. Et donc, on va vivre pendant 8 jours et on va manger, ou bien il y en a qui vont dormir. Hein, on installe des sacs de couchage sur le toit, par exemple. On va vivre pendant 8 jours, hein, tout autour de cette soukha. Mais vous voyez, on vit extérieurement dans un rite, une réalité qui resitue dans l'histoire d'Israël le sens, c'est-à-dire le symbole de chaque fête. Et donc, si on a une récolte, si la récolte est bonne, s'il y a beaucoup de fruits, ils viennent de Dieu, évidemment. De même qu'on a offert les céréales, hein, les épis, on offre les fruits de la terre. Et Rosh Hashanah, au début de l'année, hein, lorsque on vous reçoit, on fait beaucoup de visites des uns aux autres, on vous offre des pommes, hein, récolte, dans du miel, récolte, fruit de la terre, mais ici c'est le fruit de la terre. Et le travail de l'homme, c'est justement de prononcer une bénédiction. Il y a une bénédiction pour le fruit de la terre et du travail de l'homme. Le fruit de la terre est un don de Dieu. Alors, après avoir fait donc Rosh Hashanah, on médite sur le commencement et sur la fragilité de notre commencement. Nous venons de rien, finalement. Une petite semence de personnes, c'est ça, nous venons de là. Et nous avons, si nous sommes là, c'est que cette vie a été entretenue. Et notre fragilité est terrible. Nous n'avons pas vécu ce que nous étions. Et nous allons demander pardon. Pardon à Dieu et pardon au prochain que nous avons blessé. Car quand nous nous blessons nous-mêmes, quand nous blessons le prochain, nous blessons Dieu, nous l'atteignons. Donc le jour, entre le jour de l'an, Rosh Hashanah, et le Yom Kippour, le jour du grand pardon, on va passer 10 jours d'examen de conscience. Attention, on va d'abord examiner sa conscience pour recevoir tout le don qui nous a été fait, et toutes les jouissances que nous n'avons pas vécues. Car ne pas vivre la jouissance, pour le juif, c'est ne pas vivre le don de Dieu. Et donc la joie est importante, et elle doit être creusée. Mais elle ne peut être creusée réellement que si nous découvrons en même temps notre fragilité, notre impuissance, notre péché. Et nous devons demander pardon à Dieu, mais ça c'est encore assez facile. Mais nous ne pouvons demander pardon à Dieu que quand nous avons demandé pardon au prochain. Car pour rencontrer Dieu qu'on ne voit pas, il faut avoir d'abord rencontré notre prochain que l'on voit. Tout ça, vous le retrouverez hein, dans les évangiles, dans les épîtres apostoliques. Et donc vous avez ces fêtes, ce n'est qu'après cela que l'on fait Soukhot, et Soukhot pendant 8 jours, à la synagogue, on se promène, on fait une procession, en tenant en main des symboles de fruits de la terre, des branches d'arbres, avec un citron, un cédra, un citron sauvage, pour montrer que tout cela est don de Dieu. Tout ce qui nous fait vivre est don de Dieu. Et alors la Hanouka, qui se vit un peu après, hein, c'est 8 jours aussi, mais ça c'est la fête de la libération, d'une nouvelle libération. La libération de, aussi, toujours de l'exil et de l'esclavage, c'est quand le temple a été désacralisé par Antiochus IV et Épiphane en 167 avant Jésus-Christ, où la modernité de Antiochus IV et Épiphane a voulu faire que tout le monde soit unique sur le même plan et que la seule religion, ce sera la religion de l'humanité. Donc, on se coupe de Dieu, la religion grecque, la manière en tout cas. Suppression du sabbat, suppression de la circoncision, suppression de la présence divine. Et on mettra à la place de la menorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches qui symbolise l'homme avec ses 7 lumières, c'est-à-dire cette présence de Dieu. Hein, on va désacraliser tout cela pour mettre une statue de Zeus olympien à la place du temple. L'abomination de la désolation dont parle précisément le prophète Daniel. Et alors, quand les Maccabées, hein, les marteaux, les martels, vont reprendre le temple et vont resacraliser le temple, ah, il faut allumer évidemment la menorah, le chandelier à 7 branches. Et pour fabriquer l'huile de la menorah, il faut 8 jours. On a retrouvé un petit échantillon d'huile avec le mode de la fabrication. Ah, on va resacraliser ça, mais il faut 8 jours. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va quand même verser cette petite fiole dans les godets énormes, hein, comme des seaux ou des tonneaux modernes, hein, où on allumait. C'est 7 grands luminaires qui éclairaient toute la ville de Jérusalem. On va les allumer. Mais en attendant, on verse un petit peu d'huile. Oh, miracle! Une journée, elle a brûlé. On regarde la fiole, elle est toujours intacte. On verse dans le second godet. Miracle! Elle est encore, elle est de nouveau, toute la journée, elle a brûlé. Et comme ça, 8 jours. C'est un chandelier à 9 branches, la petite fiole par laquelle on allume tout, et les 8 jours. Et on allume cette Hanouka, les candélabres qu'on appelle des Hanoukiyah, on les allume et on donne des cadeaux aux enfants, l'un après l'autre. Et notre rite de l'Avent a repris. Là, quelque chose dans la fête de Noël, c'est à la même époque. C'était au mois de décembre, au moment du solstice d'hiver, au moment où le soleil a diminué, où il va reprendre. Et alors, nous allumons, nous, les 4 bougies de l'Avent, en reprenant justement cette thématique juive. Ce qui veut dire que chaque jour, chaque semaine, nous avons à nous laisser renouveler par celui qui est la lumière. Et c'est pourquoi c'est la fête des lumières. Voilà, nous arrivons au bout de, d'un parcours tout à fait rapide, mais ça vous donne une idée en tout cas de la manière dont le judaïsme s'est formé.